il ne reste plus qu'un présent qui se charge lui-même. C'est ça que je désigne par présentisme, hein, en risquant ce néologisme que certains me reprochent. Le présent se trouve investi du même coup à la fois du passé et du futur, ou plus exactement, ce présent doit fabriquer quotidiennement son futur et son passé. Et c'est en cela qu'il est son seul horizon à lui-même. C'est cela que j'essaye de saisir.
Et vous aurez reconnu peut-être la voix de l'historien François Hartog dont nous allons vous reparler. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une autre histoire du temps. Notre invité est historien médiéviste, maître de conférences à l'EHESS et enseignant à l'université autonome du Chiapas à San Cristobal au Mexique. Après avoir retranscrit l'iconographie médiévale en 2008, puis fait ses adieux au capitalisme en 2014 et réuni corps et âme au Moyen-Âge en 2016, Jérôme Bachet publie « Défaire la tyrannie du présent, temporalité émergente et futurs inédits à la découverte », où il s'attaque à un mal du siècle, l'état d'urgence permanent. Dans un monde moderne, marqué par la vitesse et l'immédiateté, le temps est saturé et les êtres toujours plus pressés et stressés. Le présent domine sur la connaissance du passé et les perspectives d'avenir. S'inspirant des écrits de l'historien François Hartog, qui a théorisé le régime d'historicité, Jérôme Bachet repense à son tour notre rapport au temps et appelle à reconsidérer l'articulation entre mémoire et venir à l'aune de l'expérience zapatiste. Bonjour à vous, Jérôme Bachet.
Bonjour.
Quand le présent devient son propre, seul et unique horizon, écrasant, hypertrophié, omniprésent, écrivez-vous, quels sont les signes actuels, les manifestations de ce présentisme exacerbé ?
Donc c'est effectivement le rapport au temps qui tend à s'imposer aujourd'hui, depuis quelques décennies. Et il y a une dimension qui touche à l'expérience de la temporalité. Donc cette temporalité sans cesse plus accélérée, plus rapide, fait d'instants brefs, et qui soumet tendanciellement les gens à ce que j'appelle une dictature de l'urgence. Tout ce qui est à faire doit être fait dans l'aujourd'hui, dans le tout de suite, dans cette urgence qui nous pousse aussi toujours vers l'instant d'après. On est toujours happé vers la seconde suivante, qui est celle vers laquelle nous pousse cette urgence permanente. Et donc, d'où ce sentiment, effectivement, de manquer en permanence de temps. C'est cette idée qu'on manque de temps, me semble être une des caractéristiques du rapport contemporain au temps. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a effectivement ce qui rejoint ce qu'exprimait François Hartog, c'est-à-dire un présent hypertrophié. Tout est centré là aussi sur l'aujourd'hui, mais un aujourd'hui qui attend à effacer le rapport historique au passé et à occulter la possibilité d'un futur qui ne serait pas le simple prolongement du présent. Donc c'est à la fois cette accélération et cette hypertrophie du présent au sein de l'idée qu'on peut avoir du temps historique qui se réunissent et qui conduisent à cette prééminence de l'instant présent.
On vous sent extrêmement séduit, vous, l'historien médiéviste, par cette théorie, cette notion qu'a développée François Hartog de régime d'historicité. Qu'est-ce qui vous a parlé à l'intérieur? Qu'est-ce qui a fait sens pour vous?
Alors, en réalité, je ne suis pas venu à cette réflexion sur les questions du temps et de l'historicité à travers les travaux de François Hartog, si curieux que ça puisse paraître, étant moi-même historien, mais en fait, à partir de mon expérience au Chiapas et de la rencontre avec la rébellion zapatiste, puisque j'ai tout de suite été frappé, donc ça remonte à une vingtaine d'années quand je me suis installé à San Cristobal de las Casas. Donc l'importance que cette rébellion, que cette insurrection que l'on connaît depuis le 1er janvier 1994 accorde à la question de l'histoire. Ils se définissent eux-mêmes comme une révolte de l'histoire, une rébellion de l'histoire. Et ils ont eux-mêmes produit dans les années 90, peu après le soulèvement, une analyse très très fouillée, très très approfondie de ce qu'ils ont appelé non pas le présentisme, mais le présent perpétuel. Et cela donc de manière assez parallèle, assez similaire par bien des aspects et chronologiquement parallèle à la réflexion de François Hartog. Donc en fait c'est à travers ce biais-là que je me suis intéressé à ces questions. Et en effet la la convergence, non pas des luttes cette fois-ci, mais des analyses
et des temps.
Et tout à fait intéressante. Et bon, elle exprime certainement le fait qu'il y a quelque chose de vrai dans ces analyses, ou qui correspond effectivement aux évolutions récentes du rapport au temps.
Alors, le Chiapas, comme laboratoire, aussi comme autre expérience du temps, on va avoir la possibilité d'en reparler, mais juste, je suis pas sûre que tout le monde connaisse si bien la lutte zapatiste. C'est d'abord quand même aussi une question de génération. Et puis vous vous êtes installé, vous vivez depuis une vingtaine d'années là-bas, une partie de votre vie, ce qui fait que vous en avez une connaissance qui est effectivement beaucoup plus affinée qu'une grande partie d'entre nous. Cette tyrannie des horloges, comme la nommait aussi Norbert Elias, se répercute sur nos vies, et vous le racontez. Il y a eu quand même peut-être des tentatives comme les 35 heures, avec l'envie de ralentir, d'essayer d'appuyer sur le frein, mais globalement, on sent qu'on est entraîné dans un espèce de tourbillon qui nous empêche de penser bien ou penser tout court notre rapport à la fois au passé et notre rapport au futur. Si on ouvre une page sur le futur, pourquoi est-ce qu'on ne croit plus au futur ?
C'est un des traits principaux du présentisme, le régime d'historicité, pour reprendre le terme de François Hartog, ou tout simplement la manière dont une société conçoit son inscription dans le temps historique, et comment elle construit sa propre idée du temps historique, son rapport entre son présent, son passé et son futur. C'est ça qui est désigné par l'idée de régime d'historicité. Le régime d'historicité qui prévalait antérieurement au présentisme, c'est-à-dire jusqu'aux années 70-80, c'est celui de la modernité dans son sens classique, et il accorde une centralité évidente au futur. On est dans le régime qui repose sur la croyance dans le progrès, mais un progrès qui n'est pas simplement une addition de progrès technique spécifique, qui conçoit le mouvement même de l'histoire universelle comme cette grande marche glorieuse du progrès qui nous conduit nécessairement vers quelque chose qui est sans cesse meilleur. Donc il y a un effet dans cette conception-là, il peut y avoir une certitude, la certitude optimiste que le futur sera meilleur et que la société en tout entière et que l'histoire est tirée par cet élan vers ce futur glorieux. Ben, ça, c'est quelque chose qui s'est radicalement effondré depuis quelques décennies.
Et vous dites quand même la faute aussi au néolibéralisme, que pour vous, les politiques et cette idéologie ont quelque part tué le futur.
Tout à fait, c'est la temporalité propre, c'est la forme d'historicité qui est propre à l'étape du système capitaliste que l'on peut dénommer néolibéralisme. À ce moment-là, il faut prendre néolibéralisme en un sens extrêmement large. En effet, c'est une nouvelle étape du système capitaliste qui s'est radicalement transformé avec ce passage à un fonctionnement transnational, avec la domination d'un marché tendanciellement mondial depuis donc les années 70. Donc là, il y a un retournement, et donc il y a aussi un retournement au niveau des conceptions du temps et de l'histoire par rapport à ce qu'il y avait dominer toute la modernité depuis la fin du XVIIIe siècle et depuis le XIXe siècle.
Je vous cite Jérôme Bachet et je donne après la parole à Antoine Mercier qui est resté à mes côtés pour vous interroger. Quant au futur, certaines de ces modalités s'effondrent tandis que d'autres se maintiennent, voire prolifèrent. Le réchauffement climatique global entraîne le déploiement inédit d'un futur prévisionnel à moyen et long terme qui s'entremêle bien souvent avec un futur expectatif négatif déployé en diverses scénarisations de fin du monde. Le futur immédiat de l'anticipation économique gonfle lui aussi, notamment du fait de l'importance acquise par le crédit. Extrait de Défaire la tyrannie du présent, temporalité émergente et futurs inédits, votre nouvel essai, Jérôme Bachet. Une question d'Antoine Mercier.
Oui, revenons sur ce présentisme que vous avez très bien décrit. Vous avez aussi très bien décrit la manière dont on était tous atteints, si je puis dire, psychologiquement, sociologiquement, par ce phénomène de présentisme, et qu'il était, selon vous, donc le résultat, finalement, de l'idéologie capitaliste qui a fini par fabriquer des individus qui convenaient au système, qui permettaient précisément de ne plus trop penser ni avant ni après et de rester des individus consommateurs et qui s'inscrivaient en tant qu'individus dans un grand marché. Bon, ça c'est la théorie générale. Pourquoi, la question que je vous pose est de savoir, est-ce que on peut imaginer que l'homme, qui est une évolution anthropologique, c'est-à-dire que l'homme puisse vivre dans le présentisme en tant que système pendant longtemps. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas finalement une possibilité durable que l'homme, pendant un certain temps en tout cas, reste dans ce schéma-là. On a l'impression que pour vous, il faut tout de suite, il faudrait en sortir absolument. Certes, on souhaite peut-être en sortir, mais est-ce que c'est obligatoire qu'il faille en sortir ?
C'est possible que ce soit un système durable. Personnellement, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Parce que les conséquences du présentisme me semblent être une accentuation des pathologies temporelles, donc qui font partie du mal-être que l'on ressent, qu'on sent monter à bien des égards un peu partout autour de soi.
C'est quoi les pathologies temporelles ?
Ben justement, ce sentiment d'être pris par le temps, d'être toujours en train d'être pris dans une course contre la montre qui empêche de s'arrêter pour prendre le temps de réfléchir peut-être plus sereinement aux transformations qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on est en train de vivre de manière générale? Et le stress, cette pression temporelle, elle participe du stress qui est soigné à coups d'antidépresseurs et autres médicaments. Donc il y a une extension, me semble-t-il, dans le monde dans lequel nous vivons des pathologies à tous égards, et les pathologies temporelles en sont une des composantes. Donc encore une fois, est-ce que ce système est destiné à être nécessairement dépassé parce qu'il est intenable? Non, pas forcément. Ça peut continuer comme ça. Mais simplement, est-ce que les évolutions, si on prend un peu de recul et si on voit les évolutions qui sont en train de se jouer, il me semble qu'on va vers des difficultés croissantes. Les véritables problèmes, les questions écologiques, celles du réchauffement climatique, par exemple, même si on en parle de plus en plus, et ça fait partie effectivement d'un certain retour de certains aspects du futur, même au sein de ce monde présentiste. On n'en tire pas réellement les conséquences. On n'en débat pas à la hauteur des enjeux.
Alors avant ce retour vers le futur, il y a ce passé qu'on convoque quand même assez régulièrement, notamment à travers notre tendance à tout commémorer. Ces commémorations, est-ce qu'elles ne suffisent pas pour vous à nous réconcilier avec le passé ? Est-ce qu'elles sont issues ou le produit d'une sorte de mauvais rapport à la mémoire pour vous, hein, Jérôme Bachet ?
Il me semble, ça, François Hartog on l'a beaucoup étudié, on a beaucoup parlé, c'est effectivement ce rapport mémoriel qui s'est imposé en même temps que le présentisme et qui est tout à fait différent par sa nature, qui se substitue à un rapport véritablement historique au passé, qui serait capable de comprendre les dynamiques de transformation des sociétés, des cultures. Alors que la commémoration, c'est prendre un point dans le temps, c'est l'isoler et c'est réaliser ces actes de commémoration par rapport à une réalité présente et d'ailleurs très souvent dans une optique très institutionnelle, puisque c'est en général les institutions qui se commémorent à travers ces rituels.
Mais qu'est-ce qui manque pour que ce soit qu'il y ait un vrai rapport à l'histoire à travers la commémoration ? On voit bien parce que ce n'est pas vivant, ça ne renvoie pas à quelque chose
C'est quelque chose qui est séparé, qui est une justification d'un état présent des choses. Donc il faudrait retrouver, ou en tout cas maintenir, donc un rapport véritablement historique et aussi un rapport réflexif, critique au passé et qui cherche à faire advenir dans le présent la force active du passé. Les apatistes, par exemple, ils ont un rapport très fort à la mémoire, mais à une mémoire vive, à une mémoire qui donne force aussi et sens au présent. Ils ont choisi d'ailleurs de se nommer eux-mêmes zapatistes. Donc ils font d'une certaine manière revivre la figure d'Emiliano Zapata, donc la lutte pour la terre des paysans mexicains au début du XXe siècle. Et c'est d'une certaine manière la même lutte qui se poursuit et qui est toujours active. Donc il y a une différence entre une mémoire figée, qui est effectivement celle plutôt de la commémoration, du musée, de manière générale, et puis une mémoire vive, une mémoire active, qui se prolonge et qui donne son énergie à l'action présente.
Et nous, en s'appelant les Français, c'est pas la preuve d'une mémoire vive et active? Non, ça marche pas avec les Français. En s'appelant les Français, ça marche pas. On fait pas revivre une histoire aussi.
C'est quand même surtout une identité. Alors effectivement, qui a besoin d'images, qui a besoin pour certains des flashs de ce roman national, qui est une construction qui généralement ne satisfait pas vraiment les historiens. Il faut quand même rentrer plus à fond dans la compréhension du passé pour s'en réapproprier de manière de manière plus profonde certains aspects, ceux qui peuvent nous être utiles aujourd'hui.
Avant d'en venir peut-être aux solutions que vous voyez, quand même, est-ce que vous pouvez expliquer les raisons pour lesquelles on s'est enfoncé progressivement vers ce présentisme ? Est-ce que vous avez une interprétation historique à proposer ou économique,
je sais pas. Oui, il y a une partie du livre qui aborde cette question. Je pense que c'est le présentisme, pour le dire de manière un peu schématique, c'est la temporalité du monde de l'économie toute puissante dans lequel nous sommes et qui est, à mon avis, une définition un petit peu plus précise de ce qu'on appelle habituellement le néolibéralisme. On avait une phase du capitalisme antérieur dans laquelle le statut même de l'économie et son influence, son impact, la manière dont elle diffuse ses effets dans l'ensemble de la société n'était pas tout à fait la même. Et là, précisément, toutes les réformes néolibérales vont dans le sens de...
Là, vous parlez à partir de Reagan-Thatcher.
Voilà, tout à fait.
Seulement, avant, il y avait quand même ce régime d'historicité, effectivement, on avait...
Le présentisme, il est né dans les années 70. Il est né dans les années 1970, c'est là le basculement. Et donc c'est une autre étape, pour moi, c'est vraiment un deuxième âge du capitalisme qui rompt pas seulement avec l'étape keynésienne antérieure, comme on le dit en général, mais qui rompt avec toute la dynamique antérieure du capitalisme depuis le début du 19e siècle.
Cette peur de l'avenir, cette peur peut-être aussi du nouveau, est-ce que ce n'est pas le propre de nos sociétés, de nos nations qui se pensent en déclin ? C'est en tout cas l'idée tendue par Jacques Attali.
Ce retour à l'idée fondamentale que le nouveau peut être bien est à mon avis absolument essentiel. On pense beaucoup trop, en particulier en France, et aussi dans les nations qui se pensent en déclin, ou en tout cas dans les parties des nations qui se pensent en déclin, on pense un peu trop que c'était mieux avant. Tant qu'on pense que c'était mieux avant, le nouveau est mortel. Par contre, si on pense que demain ça peut être mieux qu'hier, et que le nouveau peut être bon, à ce moment-là on a une chance de construire l'avenir.
Voilà, Jacques Attali, écrivain, économiste, invité de la Grande Table, c'était en janvier 2017, à qui on demandait s'il était encore possible de prédire notre futur commun. Est-ce que il faut bien distinguer aussi pour vous, Jérôme Bachet, ce qui relève de l'avenir, du futur et du nouveau ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crainte face à tout ce qui est nouveau aujourd'hui ?
Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, il me semble que l'idée du nouveau n'a absolument rien de nouveau. C'est l'idée par excellence de la modernité. La modernité, c'est précisément l'appel du nouveau et l'idée aussi qu'il n'y a de positif que dans le nouveau, ce qui implique aussi nécessairement de se détacher du passé. Donc dans la modernité, il y a un rapport au passé qui peut éventuellement être célébré dans un certain contexte très précis, mais qui est nécessairement condamné à être archaïque, qui est ce qui est dépassé, ce qui est vouloir s'y attacher, c'est faire preuve d'un archaïsme qui doit être absolument dépassé, qui fait obstacle précisément à la marche de l'histoire. Donc, est-ce que... Et que le nouveau se soit effondré, oui, puisque encore une fois, il me semble qu'il est difficile de regarder vers l'avenir avec cette espèce de certitude optimiste qui caractérisait la croyance dans le progrès.
C'est pas tout à fait vrai aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des gens qui disent, voilà, le transhumanisme, la possibilité technologique, la mondialisation, etc. Il y a quand même des visions.
Il y a certains restes de cette vision moderniste, qui parfois effectivement est accentuée jusqu'au délire. Pour moi, c'est quand on parle du transhumanisme, on est un petit peu dans ce registre-là, ou de croire qu'effectivement, il y a des gens qui prônent l'accélération, qui disent il faut effectivement accélérer, aller de plus en plus vite, et c'est comme ça qu'on va aller, éventuellement même c'est comme ça qu'on va dépasser le capitalisme. Et donc pour moi, l'enjeu pour essayer de sortir du présentisme, c'est effectivement de rouvrir le futur, donc de se réapproprier le futur, et donc de faire place à quelque chose d'inédit, et c'est aussi ce que cherchent les apatistes, mais dans un rapport, par exemple, au passé qui serait complètement différent. Une des figures qui me paraissent particulièrement intéressantes chez les apatistes, c'est de chercher à lier ensemble le futur et le passé. Donc, effectivement, s'avancer vers quelque chose qui va nous permettre de sortir de la tyrannie du présentisme, mais aussi d'une manière générale de l'économie capitaliste, mais pas nécessairement en déniant toute valeur au passé. La lutte zapatiste, elle est ancrée évidemment dans dans la culture indienne, hein, les apatistes qui se sont soulevés le 1er janvier 1994, ce sont presque tous des Indiens mayas, et donc ils revendiquent aussi leur culture, leur tradition, et qui trouvent dans ce passé-là une forme d'inspiration, mais qui en même temps ne cherchent pas du tout à s'enfermer dans ce passé.
Quel était le régime d'historicité des Mayas ?
Ben, comme tous les régimes qui ont précédé la modernité, ils sont fondés sur l'idée de la tradition. C'est-à-dire que ce qui est positif, c'est pas du tout le futur comme dans la modernité, c'est le passé. C'est dans l'origine et dans le passé qu'on trouve les valeurs positives. Et donc le présent doit reproduire le passé. Donc effectivement, c'est un modèle cyclique de reproduction du passé.
Donc vous voulez pas enlever la flèche du temps quand même.
Oui. Il s'agit pas de ça. Et évidemment, et les tenants de la modernisation, ils opposent toujours à ceux qui les critiquent ou qui critiquent cette vision. Ah, mais alors vous voulez revenir au passé, vous vous enfermez et éventuellement vous voulez revenir à la préhistoire, etc., etc. Mais non, justement, là, on a une figure assez presque inédite, nouvelle, d'une certaine manière. Pas tout à fait, il y a toujours des antécédents, certains penseurs qui ont été un peu dans cette direction-là. Mais donc cette alliance entre un passé dans lequel il y a des sources d'inspiration possibles, il y a des choses positive à reprendre, et il y a un rapport aussi à ce passé, aux morts, aux anciens, etc.
Alors justement, sans aller
pardon. Et en même temps de le lier à la volonté de construire quelque chose, donc qui nous ouvre un futur différent, qui permet d'échapper à l'enfermement fataliste dans le présent tel qu'il est.
Voilà, vous l'écrivez, le Chiapas, c'est aussi déconnecté de l'histoire et désamarré du présent, sans aller jusqu'à la préhistoire. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec le Moyen-Âge que vous étudiez, qui est votre champ disciplinaire?
Le Moyen-Âge aussi relève de ces cultures disons traditionnelles pour une partie, et en même temps il a, donc est-ce qu'il y a certains points communs? Oui, bien sûr, toutes les cultures non modernes ont en partie des choses communes, sur les conceptions de la personne aussi. C'était l'objet de mon livre sur corps et âme. Donc il y a en effet des rapprochements à faire.
Pour lequel on vous recevait ici autour de cette Exactement. Grande table, Jérôme Bachet, auteur aujourd'hui de Défaire la tyrannie du présent, temporalité émergente et futurs inédits, où le Chiapas devient un laboratoire de la discordance des temps sous votre plume. On est ensemble jusqu'à 13h30.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et vous appelez, Jérôme Bachet, dans cette histoire, à rouvrir le futur. Alors par quoi passe l'invention d'un rapport inédit au futur? Et si on parlait un peu progrès d'abord, je propose d'ouvrir ce deuxième et dernier chapitre de La Grande Table avec Peter Wagner, le sociologue qui a fait paraître l'an passé « Sauver le progrès, comment rendre l'avenir à nouveau désirable ?» C'était à la découverte.
On n'a pas dit vraiment adieu à ce vieux concept de progrès, et ça nous empêche à refonder ce que doit être une nouvelle conception du progrès. Et dans cette situation, nous ne savons pas quoi faire, parce que il y a un sens que ce vieux concept ne marche plus, mais il n'y a pas, parce qu'on n'a pas repensé ce vieux concept, il n'y a pas une idée claire sur ce que projet peut dire aujourd'hui. Et ce que je souligne, c'est le besoin d'un concept de progrès, parce que la situation ne peut pas rester comme elle est. Il y a des urgences dans le monde et il faut qu'on progresse dans ce sens. Mais on ne peut pas progresser si on ne réfléchit pas sur les conceptions erronées du progrès dans le passé.
Et ce mot progrès, vous l'avez d'ores et déjà employé, Jérôme Bachet, depuis le début de l'émission. Comment faut-il réenvisager, repenser le progrès pour un autre rapport au temps, pour faire naître, émerger de nouvelles temporalités?
Alors j'ai une position un petit peu différente. Je ne reprends pas à mon compte la notion de progrès, parce qu'elle me semble vraiment spécifique du régime moderne d'historicité, et donc de cette croyance qui s'est effondrée et qui ne me semble pas forcément pertinent de faire réémerger, en tout cas en utilisant ce terme. Quand on parle de progrès, c'est vraiment l'idée que l'histoire tout entière est assimilable à un mouvement uniforme et fatal, en quelque sorte, vers un mieux. Et qu'on avance, et que donc l'histoire est cette avancée nécessaire et fatale, toujours vers l'avant, et vers ce mieux. Et je pense que cette vision-là de l'histoire, elle s'est effondrée, et c'est pas celle-là qu'il faut chercher à faire renaître. En ce sens, dans le camp de ceux qui souhaitent une transformation radicale du monde dans lequel nous vivons, qui envisagent même la possibilité qu'un jour le destin de l'humanité soit d'échapper à la tyrannie capitaliste, donc à la tyrannie du monde dans lequel nous sommes, il y a effectivement deux approches qui se confrontent mutuellement. L'une qui reprend le schéma de l'histoire comme progrès, et puis d'autres, comme justement les apatistes, qui pensent qu'il faut recréer une autre conception de l'histoire, qui est donc ce rapport différent entre le désir du nouveau et la force du passé, donc qui soit plutôt sur un modèle non pas linéaire, comme l'a été la vision de l'histoire comme progrès, mais plutôt spiralante. Les apatistes ont cette image de l'escargot ou de la spirale, qui est à la fois l'emblème du ralentissement, en ce qui concerne les questions de temporalité, mais aussi, si on la prend comme image du devenir historique, eh bien on a l'idée de quelque chose qui doit avancer en revenant en permanence vers le passé, c'est-à-dire pas en faisant retour au passé, mais en allant chercher quelque chose dans le passé pour pouvoir avancer. Et ça, il me semble que c'est tellement différent de ce qu'a été l'idée classique du progrès que il me semble qu'il, personnellement, il n'est pas souhaitable de reprendre ce terme.
Nier le futur au passé, bon, c'est la phrase que vous nous proposez, ouais, c'est un peu oxymorique quand même, ouais, et on a du mal à concrètement voir ce que ça signifie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la manière dont on pourrait lier, ou comment les apatistes lient précisément leur futur à leur passé ? Comment ça marche ?
Les manières de vivre, les formes de vie qui sont
concrètement,
qui sont celles de l'organisation communautaire, de la possession collective des terres, toutes choses dont les modernisateurs nous disent que c'est dépassé, qu'il faut abandonner tout ça parce que le cours de l'histoire y oblige, et les normes du monde néolibéral l'imposent. Eh bien non, là il y a quelque chose de positif, hein, il y a quelque chose qui peut être une base d'une autre manière de s'organiser et de construire la vie collective, et donc de projeter ça vers le monde que l'on souhaite.
On garde cette structure du passé, mais voilà. Qu'est-ce qu'on met en quoi c'est un futur?
Parce que effectivement, on peut considérer que les formes d'organisation communautaire dans leur vision traditionnelle étaient précisément accordées trop de place au passé et pas suffisamment à la possibilité de se transformer, et peut-être aussi étaient trop refermées sur elles-mêmes. Donc les modèles de vie communautaire qui ont pu exister dans le passé ne sont pas à reprendre comme tels. Ils doivent être repensés, et en intégrant des éléments nouveaux qui sont liés à une plus grande interrelation entre des mondes différents, entre des univers différents, ce que les apatistes n'ont pas cessé de faire, puisqu'à la fois ils revendiquent leur propre héritage indien, maya, mais en même temps sans vouloir s'y enfermer, et pour cela, ils sont en contact permanent avec d'autres luttes, avec des gens du monde entier qu'ils ont en permanence appelés à venir aux rencontres qu'ils organisent, à venir voir ce qui se passe dans l'autonomie.
C'est les mayas plus Internet, quoi.
Oui, on peut dire comme ça, enfin, pour aller très vite. Mais,
Est-ce que ce modèle est transposable aujourd'hui à plus grande échelle? Est-ce qu'on peut et comment s'en inspirer?
Il n'y a pas de modèle. Hein. Les apatistes ne cessent de répéter que ce qu'ils ont fait n'est pas un modèle. C'est simplement une source d'inspiration.
Vous le prenez en modèle, alors, en tout cas.
Je le prends comme une source d'inspiration. D'ailleurs, il y a une autre idée qui est importante pour repenser donc ce rapport au temps historique. C'est ce qu'ils appellent le caminar preguntando, donc cheminer en posant des questions. Et ça, c'est une éthique dans la manière de faire aussi, de construire une lutte politique qui met à bas les logiques d'avant-garde, hein, qui étaient celles des mouvements révolutionnaires classiques tout au long du XXe siècle. Donc il y a une avant-garde qui guide les masses vers quoi ? Vers ce futur déjà connu, qui est celui des lendemains radieux et de la certitude absolue garantie par les lois de l'histoire que demain, le socialisme ou le communisme adviendra. Donc ça, c'est devenu effectivement impossible. Donc il s'agit de réinventer la possibilité de penser un dépassement du capitalisme, la possibilité d'une autre organisation du monde, mais qui ne peut plus être fondée sur aucune certitude.
En dépassant aussi l'idée du grand soir.
Bah, voilà, exactement. Pour cela aussi, en construisant au présent une autre réalité, une autre forme d'organisation politique qu'ils appellent l'autonomie et qui est une autre manière de penser l'organisation politique collective qu'ils déploient donc depuis une vingtaine d'années.
Cheminer en se posant des questions. Alors on se pose des questions sur quoi ? Sur la direction ? Sur est-ce qu'il faut cheminer encore ?
Sur la direction, ouais. On a des questions dès le départ et puis en même temps, à chaque pas, il y a de nouvelles questions qui se posent, qui doivent être aussi discutées collectivement, ce qui aussi suppose du temps. Donc la question du ralentissement, c'est aussi la possibilité de la consultation et de la discussion collective. Et ce qui veut dire qu'on n'a aucune certitude préalable. Ce qui est le contraire du modèle historique antérieur. Donc, tout se fait dans le processus même, sans un modèle préalable, et donc sans la possibilité d'une planification. Le rapport aussi au futur dans les conceptions de la modernité, c'est par excellence la planification. Alors, pas seulement le plan quinquennal, etc., mais le fait que le futur est planifiable, parce que, d'une certaine manière, la ligne droite du progrès nous donne rend visible et lisible par avance les grandes tendances. Et puis, dans les conceptions marxistes, on a les lois de l'histoire qui nous disent par avance comment les choses vont se passer, évidemment dans les grandes tendances, pas dans le détail événementiel, dans lequel il y a évidemment toujours des allers-retours, des rechutes, etc., des retours en arrière, partiels. Donc c'est une antidote à ces conceptions avant-gardistes et à cette conception planificatrice en fait du futur, mais en même temps qui nous pose la possibilité d'une anticipation, hein, d'une aspiration anticipante, c'est-à-dire le désir de quelque chose d'autre, de quelque chose de ce qui n'est pas encore, de ce qui n'est et donc qui nous permet de sortir de l'enfermement dans le présent tel qu'il est.
Est-ce qu'on vit vraiment mieux là-bas?
Je crois.
Mais vous revenez quand même parfois nous voir, malgré tout.
Bien sûr, parce qu'il faut faire le pont entre ces différents mondes.
Et ici, vous trouvez des ferments de ça ?
Ben oui, bien sûr, dans les espaces comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dont on espère qu'elle ne sera pas expulsée, ou dans d'autres expériences alternatives, qui ont aussi cette caractéristique de chercher un autre rapport au temps qui implique un certain ralentissement, ou en tout cas de ne pas se soumettre à cette logique accélérative qui domine... partout aujourd'hui.
Autre rapport au temps et autre rapport à l'espace, le chiapas que vous qualifiez aussi de lieu inactuel. Merci beaucoup Jérôme Bachet. Défaire la tyrannie du présent, temporalité émergente et futurs inédits vient de paraître à la découverte dans la collection L'horizon des possibles qui porte bien son nom. Merci Antoine Mercier et merci à toute l'équipe de La Grande Table, à la programmation préparation Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Maxime Morin, avec l'aide précieuse d'Émile Boutelier et de Liana Valken. Réalisation aujourd'hui, Perret Legras avec Antoine Pitiloni. Quand une grande table se referme, une autre s'ouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez réécouter l'émission, vous abonner au podcast ou encore nous écrire. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous et vous dis rendez-vous demain à midi pour une nouvelle grande table.